Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
On est au Festival de jazz international de Montréal.
Oui, c'est un festival international de jazz qui est ici depuis plus de 25 ans et qui est un des gros événements de l'été au Québec.
On y voit toutes sortes de musiciens qui viennent de partout dans le monde pour faire des spectacles, autant le jour que le soir. C'est ça.
Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et je suis résident ici. Il faisait beau, bon, j'ai dit je vais faire un tour au centre puis, et voir comment ça s'est déroulé aujourd'hui. Il y a quelques années, il y a Tikenja Fakol qui est déjà venu, et puis il y a Mori Kandi qui est déjà venu pour le festival. J'avais assisté à ça. Le grand concert, quand Mori Kandi se produit, là, c'était un grand concert vraiment.
Ces réactions enjouées de spectateurs québécois ont été recueillies en juillet 2015 lors de la 36e édition du Festival international de jazz de Montréal, qui accueillait cette année-là Wayne Shorter, Charles Bradley, Molly Johnson, James Cotton, Harold Mayburn et Stanley Clark, entre autres. Pour notre quatrième et dernier épisode consacré au festival privé de public et de musiciens pour cause de pandémie mondiale, nous allons vous proposer une émission spéciale avec deux bassistes de renommée internationale. Le premier s'appelle Stanley Clark et le second Larry Graham. Commençons par Stanley Clark. Il est né à Philadelphie en 1951 et a été un véritable pionnier au tournant des années 70 en prenant part à un mouvement musical, le jazz rock ou jazz fusion, qui révolutionna l'épopée des musiques noires il y a 50 ans. Sa discographie est très riche et son éclectisme mérite des applaudissements nourris. Le funk, le rock, le jazz, la musique classique, tout l'inspire et la conversation que nous avions eue à Montréal en juillet 2015 reflète parfaitement cette ouverture d'esprit, comme l'album Up qu'il présentait alors au public québécois. Cette humeur soul-funk inspirée de Papa's Got a Brand New Bag de James Brown provient du nouvel album de Stanley Clark que nous sommes heureux de retrouver ici à Montréal. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps.
Je suis très heureux d'être ici au Festival Jazz de Montréal, qui est l'un des 5 ou 6 meilleurs festivals au monde, à mon avis.
Peut-on dire que Up, votre dernier album, résume vos diverses influences musicales, de la soul à la fusion, du Brésil à Charles Mingus?
Oui, je suis d'accord. Comme je le précisais à l'un de vos confrères, l'album Up, contrairement à l'époque où il fallait formater les œuvres pour la radio, a été réalisé sans aucune pression, juste entre amis. Chaque musicien qui apparaît sur ce disque est un ami de longue date, et comme chacun d'eux vient d'un univers sonore différent du mien, de la pop, du rock, du rhythm and blues, ce fut un réel plaisir de me confronter à eux. Le premier titre que nous avons enregistré faisait appel à la virtuosité de Stewart Copeland, l'ancien batteur du groupe Police. Il voulait que je vienne en studio avec ma contrebasse et nous avons travaillé dans une ambiance très positive. Il faut dire que je le connais depuis bien longtemps, avant même qu'il ne devienne le batteur de Police. Il se trouve que nous vivons dans le même quartier, nous déjeunons souvent ensemble et nous partageons nos vieux souvenirs, nos souvenirs de guerre.
Talk old stories, old war stories.
J'ai ouï dire que vous étiez également un grand amateur de musique classique, et notamment de Jean-Sébastien Bach. Que vous ont apporté vos études classiques?
Well, you know, Bach was, he was, to me, Bach was kind of, in my opinion, this may sound strange, but he was kind of like the jazz musician at that time, because...
Cela va vous sembler étrange, mais j'ai toujours considéré Jean-Sébastien Bach comme un musicien de jazz du 18e siècle. Il a écrit des compositions dans lesquelles on peut déceler une part d'improvisation. Ce n'était pas que de simples mélodies, il était le Charlie Parker de l'époque. Il inventait des changements d'accords inédits pour son temps. Si vous écoutez attentivement et si vous étudiez ses œuvres, vous découvrirez le génie de cet homme. J'ai toujours aimé sa musique et j'ai d'ailleurs enregistré récemment une suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Vos auditeurs seront surpris par mon jeu à la basse sur ce répertoire-là. J'ai essayé de respecter la tonalité originale et je dois dire que le résultat est plutôt réussi. J'aime tellement Jean-Sébastien Bach.
And I did it in the original key, and it sounds very good in a very nice setting. And I love Bach. Yeah.
Sur votre dernier album Up, il y a une nouvelle version de School Days. Pourquoi avoir réenregistré votre plus grand standard?
Well, to be honest, because many guitar players have asked me to play on that song. Man, can I play on it live? Can I?
Pour être honnête, c'est à la demande de plusieurs guitaristes qui insistaient pour enregistrer avec moi ce titre historique ou qui voulaient le jouer avec moi sur scène. J'ai donc accepté que l'un d'eux, Jimmy Herring, qui a un vrai talent, apparaisse sur cette nouvelle version. De plus, j'ai une approche assez différente de celle des musiciens de rock. Dans le rock, lorsque vous avez réussi à placer un standard dans l'hit parade, il devient intouchable. Mais les musiciens de jazz réfléchissent autrement. Miles Davis a enregistré des dizaines de fois ses grands succès. So What a été interprété maintes fois. Les œuvres de John Coltrane également. La tradition du jazz veut que l'on s'empare d'un grand classique et qu'on le fasse constamment évoluer. Une composition jazz est souvent un prétexte pour développer sa propre inspiration. Et si l'un de vos titres devient un standard, tant mieux. Vous continuerez à le jouer de toute façon. Je me souviens, en tout cas, parfaitement du jour où j'ai écrit School Days. Cela m'a pris 10 minutes. Je regardais à la télévision la cérémonie des Grammy Awards, le groupe Return to Forever venait de remporter un prix et j'étais très heureux pour mes camarades. Ella Fitzgerald et Mel Tormé avaient pour mission d'annoncer le nom des gagnants, sauf que Mel Tormé a présenté Chuck Corea au lieu de Chick Corea. C'était Ella Fitzgerald qui a rectifié. J'étais mort de rire. Je me suis dit, certains devraient retourner à l'école, d'où le titre School Days. Je suis parti me coucher avec ma basse à la main et en jouant dessus, j'ai sorti inconsciemment ce gimmick devenu célèbre. Le lendemain matin, j'ai achevé cette composition et le tour était joué. Je l'ai enregistré un mois plus tard. Ce fut mon plus grand succès et un bon moyen pour donner une autre image de la basse dans l'univers du jazz.
Stanley Clarke en 2015 sur l'album Up. Stanley Clarke, vous avez joué avec un nombre incroyable de sommités, de Aretha Franklin à Sonny Rollins, Art Blakey, Al Jarreau, Michael Jackson, Carlos Santana, mais aussi, j'aimerais que nous parlions de George Duke. Quel souvenir de l'artiste et de l'homme garderez-vous de lui?
Well, as a man, he was like a big brother to me, George. He was, I met George in 1971-72.
George Duke, c'était un peu mon grand frère. Je l'ai rencontré en 71 ou 72 en Finlande. C'était un personnage toujours positif et joyeux. Nous étions vraiment de bons amis. En tant que musicien, il faisait partie de ces artistes totalement polyvalents. C'était un grand pianiste, il était aussi un excellent tromboniste, ce que peu de gens savent. Il avait d'ailleurs commencé sa carrière au trombone avant de s'intéresser au piano. C'était un enseignant de grande valeur. Il était arrangeur, compositeur, interprète. Il était capable de réunir une cinquantaine d'artistes pour un show télévisé en l'espace de quelques heures et de leur écrire les arrangements des chansons qu'ils devaient interpréter devant les caméras. C'était un grand producteur, c'était un homme aux multiples talents. Il enregistrait des disques, donnait des concerts, mais également travaillait dans l'ombre. Il composait pour le cinéma. C'était un artiste complet. Quel que soit le contexte, il excellait.
Stanley Clark, le 30 juin, c'était votre anniversaire. Qu'avez-vous demandé comme cadeau ?
You know what, man? Last year, I wanted a gift.
Je vais vous dire, l'année dernière, je voulais un cadeau bien particulier que j'ai finalement acheté moi-même. Il se trouve que j'adore les voitures de course et j'avais demandé à ma femme de m'en offrir une. Elle m'a immédiatement répondu « Tu es trop vieux pour ce genre de jouet ». Il est vrai que j'ai souvent flirté avec le danger en conduisant des Mercedes ou des Toyota GT. J'ai pourtant insisté et je lui ai dit « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Une Chevrolet Corvette ». Ma fille m'avait mis cette idée dans le crâne en m'offrant il y a quelques années un modèle réduit de la Chevrolet Corvette à monter soi-même. Et enfin, l'année dernière, ma femme a craqué « Ok, va te choisir ta Corvette ». J'ai donc depuis un an une voiture de course, une Chevrolet Corvette rouge. Mais désormais, il faut juste que j'évite de me faire choper par les flics.
And it's red, so now I just have to worry about not being stopped by the police.
Quoi qu'il en soit, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire et merci pour cette interview.
Good, thanks. It's good to talk to you and thank you so much, my friend. Okay.
C'était Up, extrait de Up, l'album que Stanley Clark était heureux de présenter au public montréalais en juillet 2015 lors de la 36e édition du Festival international de jazz de Montréal. Cette année, à cause du Covid-19, l'événement a eu lieu principalement sur Internet avec des concerts intimistes et quelques rediffusions de prestations légendaires comme celle d'Oscar Peterson et Oliver Jones en 2004 ou encore Jaco Pastorius en 82, sans oublier Miles Davis en 1985 et Sarah Vaughan en 1983. Gageons que l'année prochaine, le virus sera disparu et que Montréal retrouvera sa vigueur habituelle durant les mois d'été. Poursuivons notre redécouverte des archives compilées par Nathalie Laporte avec un autre bassiste exceptionnel. Il s'appelle Larry Graham. Nous sommes le 18 juin 2016, le Festival Jazz de la Défense, près de Paris, s'apprête à vivre une soirée exceptionnelle. Larry Graham vient de perdre l'un de ses bons amis, et pas n'importe lequel. Deux mois plus tôt, le génial guitariste, chanteur, danseur, producteur et chef d'orchestre américain Prince disparaissait à l'âge de 57 ans. Larry Graham eut donc l'idée de transformer sa prestation funk habituelle en une célébration émouvante ponctuée de grands classiques signés Prince, comme ce titre devenu universel, Purple Rain. À l'issue de ces deux heures de communion avec le public parisien éploré par la disparition de Prince, Larry Graham prit le temps de nous accorder une longue interview dans les coulisses au milieu de ses amis et musiciens qui l'entouraient. comme pour le réconforter. Ces mots empreints d'une certaine nostalgie se voulaient toutefois positifs plus que larmoyants. Et malgré les allées et venues de photographes, de personnalités locales, de prestigieux invités et d'officiels dans sa loge, Larry Graham tenait à répondre à nos questions dans un brouhaha sympathique, reflet de l'agitation inhérente à tout événement de taille.
Well, you know, we've been here a number of times and we always love.
Nous sommes venus ici à Paris de nombreuses fois et c'est toujours un plaisir de jouer ici. Chacun des membres du groupe a conscience de la chance de jouer ici en France, mais je dois le reconnaître, la soirée que nous venons de vivre était très particulière. Nous étions heureux d'honorer l'invitation de ce festival pour présenter ce projet à la mémoire de Prince. Cela nous tenait à cœur. J'ai tant de souvenirs avec Prince. La première fois que nous avons joué ensemble, comme je le disais tout à l'heure sur scène, c'était à Nashville dans le Tennessee. C'est lui qui m'avait demandé de me joindre à son groupe et finalement, je suis resté durant toute la tournée. Nous avons eu diverses conversations ensemble pendant ces longues semaines sur la route. Il m'interrogeait notamment sur mes convictions religieuses. Il s'intéressait à ma vie et à ma carrière depuis de nombreuses années. Après chaque concert, nous passions la nuit à discuter ensemble. Par conséquent, à la fin de la tournée, nous avions lié amitié. Et alors que j'envisageais de quitter Montego Bay en Jamaïque pour vivre en Californie, il m'a proposé de vivre à Minneapolis pour que nous puissions continuer à échanger ensemble. Nous nous sommes donc, ma femme et moi, installés dans le Minnesota pour une période que j'imaginais brève, mais ma fille a rencontré son mari là-bas. Et trois petits-enfants plus tard, nous sommes toujours sur place.
And now, three grandkids later, we're still there.
Maintenant que nous sommes entrés dans le vif du sujet, vous vous demandez sûrement pourquoi Larry Graham a toute légitimité pour évoquer le regretté Prince. Il faut savoir que notre interlocuteur du jour est une figure emblématique de l'histoire du funk. Il débuta sa carrière au sein du groupe Sly and the Family Stone au cœur des années 60 et était à l'affiche du festival de Woodstock en août 69 aux côtés de Sly Stone. Il fut par ailleurs le fondateur d'une entité funk célèbre dans les années 70, Graham Central Station, et inventa une technique de basse, le slap, qui inspira des milliers de jeunes instrumentistes au fil des décennies, dont Marcus Miller, Bootsy Collins ou jadis Stanley Clarke. Inutile de vous dire que Prince, alors encore inconnu en 1975, écoutait déjà avec beaucoup d'intérêt les albums de son aîné, dont il saura exploiter plus tard la sève pour son propre répertoire. Ce n'est cependant qu'au milieu des années 90 que Larry Graham et Prince deviendront les meilleurs amis du monde.
Well, originally, the first time we hooked up.
La première fois que nous nous sommes rencontrés à Nashville dans le Tennessee, nous ne parlions que de musique. Mais comme nos conversations nous ont menés à la religion, nous avons appris à nous connaître non pas sur le plan artistique, mais davantage sur le plan spirituel. Je n'ai jamais cherché à faire du prosélytisme auprès de lui. Je préférais le laisser chercher sa voie seul. Je ne faisais que répondre à ses questions et lui faire part de quelques préceptes lorsqu'il m'en faisait la demande. C'est à ce moment précis qu'il a envisagé de devenir témoin de Jéhovah. Cela ne me dérangeait absolument pas à partir du moment où notre relation restait spirituelle. Je le voyais un peu comme mon fils. J'avais parfois l'impression d'être dans le rôle du père à ses côtés. Il est devenu un membre de ma famille en quelque sorte. Il me manque énormément. Par conséquent, jouer ses chansons sur scène, comme nous l'avons fait ce soir, m'apporte et nous apporte à tous l'apaisement dont nous avons besoin. Beaucoup d'émotions s'entrechoquent car nous étions très proches, mais ce concert m'a apporté une forme de sérénité nécessaire pour accepter son absence.
Brings me relief too. Growing up, he listened and was influenced a lot by Graham Central Station.
En grandissant et en évoluant musicalement, Prince s'est intéressé à la musique de mon groupe Grand Central Station. Puis, il a remonté le temps et a commencé à écouter mes prestations au sein de Sly and the Family Stone à la fin des années 60. Tout ce que je ressentais durant ces multiples expériences musicales, Prince le ressentait également. C'est la raison pour laquelle je vibre si naturellement sur la musique de Prince. Nous avions les mêmes goûts et ressentions les mêmes émotions au même moment. Voilà pourquoi nous nous sommes si bien entendus lorsque nous avons joué pour la première fois ensemble. Jouer sa musique aujourd'hui n'est pas un exercice compliqué, c'est davantage un plaisir qui me procure des émotions fortes. J'ai le sentiment de chérir une part de lui-même lorsque je suis sur scène et que je joue son répertoire.
I can have a part of him with me when I'm playing his music, you know.
Si Prince et Larry Graham ont maintes fois jamais ensemble sur scène, leur collaboration en studio se résume à un album paru le 21 juillet 1998 intitulé Graham Central Station 2000 et qui devait relancer l'épopée de Larry Graham alors dans le creux de la vague. Produit par sa majesté Prince au sommet de la gloire, ce disque permit à Larry Graham de se retrouver dans le feu des projecteurs, même si la critique considéra que cet enregistrement portait ostensiblement le sceau princier. Mais Larry Graham n'avait que faire de ses commentaires aigris et se félicite toujours aujourd'hui d'avoir concocté ce disque avec Prince.
It was such a joy to do it. I have fond memories. I was in Studio B recording.
C'était très plaisant d'enregistrer cet album, j'en garde de très bons souvenirs. J'étais dans le studio B, Chaka Khan enregistrait dans le studio A et Prince passait son temps entre les deux studios. De temps en temps, il se consacrait à son propre album, puis passait à enregistrer quelques solos sur le mien. Il m'arrivait également d'aller seconder Chaka Khan dans le studio d'à côté et bien entendu, elle me rendait la faveur en venant enregistrer des chœurs sur mon propre album. On pouvait véritablement ressentir le bonheur d'être tous ensemble durant ces sessions historiques. Et je suis convaincu que cela s'entend à l'écoute de nos différents albums. Beaucoup de fans nous ont fait part de leur immense plaisir d'entendre cette complicité musicale lorsqu'ils ont découvert le coffret 3 CD qui réunissait nos trois enregistrements de l'époque. Lorsque je réécoute cette musique aujourd'hui, je ressens encore la joie et l'enthousiasme qui ont rythmé ces séances de studio.
You know, I can feel the love, I can hear the love and the joy, because it existed right there in the studio.
Malgré la ferveur palpable dans les coulisses et l'enthousiasme très sonore des musiciens de Larry Graham après un concert hommage fort réussi et émouvant, aucune de nos questions ne fut éludée. Larry Graham aurait pu gentiment nous faire comprendre que son attention était ailleurs et que son grand âge supposait quelques minutes de repos et de calme avant l'avalanche de nos interrogations. Eh bien non, au milieu des congratulations et sollicitations diverses, cette rencontre radiophonique a eu lieu avec un personnage affable, bien déterminé à honorer Prince, qui reste à ses yeux un artiste unique, même si nous lui avons soufflé les noms de quelques héritiers potentiels.
I can only speak about people that... I really know.
Je ne peux parler que des personnes que je connais vraiment. Prince fait partie de ceux que je connais. Je ne vais donc pas évoquer des artistes dont j'ai seulement entendu parler. Je peux avoir écouté leur musique, mais pour exprimer une opinion sincère et honnête, il faut connaître l'artiste. Il existe peu de musiciens sur cette planète avec lesquels j'ai passé autant de temps qu'avec Prince. Je me contenterai donc de vous dire ceci. Pour moi, il n'y a qu'un seul Prince. Rendez-vous compte, il était capable de tenir un public en haleine pendant 2 heures juste avec sa guitare et sa voix ou avec un piano seul. Je ne connais personne d'autre capable d'une telle performance. Tant que je n'aurai pas découvert un artiste à la hauteur de Prince, je continuerai à dire que Prince était le meilleur. Certes, certains musiciens sont capables de se produire en solo, mais ont-ils le talent et la maestria d'un personnage comme Prince? J'en doute. En tout cas, à ce jour, pour moi, il n'y a qu'un seul Prince.
One Prince.
We've been waiting for so long, waiting to play for you some of our songs. We've been waiting for so long, we want to play for you some of our songs.
Bet you by golly,
the Central Station is the name of our group. We're making this record especially for you. So lay on back and hear us play and swing.
You are thing, Graham Central Station. 'Cause we've been waiting for so long, waiting to play for you some of our songs. We've been waiting for so long, we want to play for you some of our songs. 'Cause we've been waiting.
À l'issue de notre vibrante conversation et malgré les conditions précaires de ce reportage, nous avons profondément ressenti l'émotion de Larry Graham à l'évocation de son frère de cœur, le regretté Prince. Notamment lorsque nous lui avons demandé ce qu'il aimerait lui dire, si Prince pouvait l'entendre au-delà des cieux.
Well, here's the thing. From what I have
learned, je vais vous dire, si je m'en tiens aux écritures sacrées, je sais que je le reverrai un jour. L'important n'est pas de savoir ce que j'aimerais lui dire maintenant, mais ce que je lui dirai alors.
I plan to see him again. So it's not so much about what I would say now, it's more about what I'm going to say then.
Enregistré le 27 janvier 1992 chez lui à Paisley Park, c'était Prince en concert pour quelques invités privilégiés dans une version magique de Nothing Compares to You que Larry Graham ne s'était pas privé d'interpréter ce 18 juin 2016 au Festival Jazz de la Défense près de Paris qui, nous l'espérons, renaîtra en 2021 si le virus qui touche actuellement la planète veut bien nous laisser tranquilles. C'est ainsi que s'achève notre série estivale en forme de clin d'œil à tous ces organisateurs de spectacles, musiciens, techniciens, attachés de presse et spectateurs qui ont été privés de la ferveur de véritables prestations sur les scènes internationales cet été. Soutenons la musique vivante et souhaitons sincèrement que la situation sanitaire mondiale s'améliore très vite. La semaine prochaine, nous débuterons une autre série d'émissions consacrée aux géants du jazz. Durant tout le mois d'août, nous dessinerons le portrait de quelques maestros, en commençant par le pianiste Hank Jones, qui nous a quittés il y a 10 ans, au printemps 2010, et dont l'épopée quasi centenaire devrait vous captiver. C'est évidemment Nathalie Laporte qui réalisera cette collection de Jazz Masters, ce qui me donne l'occasion de la remercier chaleureusement pour l'émission du jour. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
Rosie Gaines.